Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'association Anaïs, une association qui œuvre en faveur du développement personnel, de l'épanouissement intellectuel et physique, de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, les accompagnant en fait leur vie durant. Et pour ce faire, je suis très heureuse de recevoir Christiane Bouvier, qui est vice-présidente de cette association. Christiane Bouvier, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Et je reçois également Lucie Luçon, qui est responsable de la communication. Lucie Luçon, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, j'aimerais bien justement que vous m'expliquiez, Lucie Luçon, ce que signifie Anaïs.
Alors l'association Anaïs, A-N-A-I-S, en fait aujourd'hui c'est un acronyme, on ne peut pas vraiment le définir, c'est une marque. À la genèse, l'association Anaïs s'est appelée ainsi parce que c'était l'association normande d'action et d'insertion sociale, nos établissements étant localisés essentiellement dans l'Orne. Avec le développement de l'association, notamment dans la Sarthe et dans la région Centre-Val-de-Loire, aujourd'hui, on ne peut plus se targuer d'être normand. On est une association quasi nationale, mais on ne peut pas prétendre à cette dénomination puisqu'on n'est pas non plus sur le territoire national. Donc aujourd'hui, on parle de la marque Anaïs. Anaïs, c'est l'acronyme, l'association voilà. Anaïs.
Donc c'était bien quand même qu'on sache pourquoi ça s'appelait comme ça.
Tout à fait.
Ça s'appelle toujours comme ça et peut-être que plus tard, on pourra le définir si elle devient nationale.
Tout
on
à
l'espère,
fait.
Puisque
tout à fait.
Déjà, vous couvrez de nombreux départements.
Tout à fait.
Donc c'est une association qui est née dans l'Orne.
Oui.
Le siège social étant donc à Alençon, c'est bien
ça? À Alençon, tout à fait.
La création de l'association Anaïs, c'est 60 ans d'histoire et de réalisation. L'abbé Haussmann, en 1954, a voulu aider les personnes handicapées mentales pour lesquelles il n'y avait aucun système de protection et d'accompagnement.
Et c'était déjà des adultes ou il a commencé par des enfants?
Alors en fait, il a commencé en menant des centres de loisirs pour des enfants inadaptés, en fait, ce qu'on appelait à l'époque des enfants inadaptés.
Ah oui, ce sont en fait des enfants qui ont été à la base de cette association.
Tout à fait. Il était accompagnateur dans ces centres de loisirs. Il s'est rendu compte qu'en dehors de ces centres, personne ne les prenait vraiment en charge. Et à partir de là, il a commencé à créer une petite veille en créant un petit journal qui s'appelait Association d'action et d'insertion sociale, donc le premier sigle. Et il a rencontré, lors d'un déplacement avec des enfants dans un centre de loisirs, un autre abbé. Ils se sont concertés et l'idée lui est venue de créer le premier institut médico-éducatif. Donc 10 ans après la création de l'association, il a créé son premier IME à la chapelle pressée dans l'Orne, là où il est originaire, pour s'occuper de l'enfance inadaptée. C'était la terminologie de l'époque.
Eh oui, très bien. Donc c'est parti de l'Orne et je crois que c'est un petit village près de C.
Tout à fait.
Ça s'appelle ?
La chapelle pressée dans l'Orne.
Voilà. Tout à fait. Et alors, après, il y a eu donc toute une organisation qui s'est faite. Comment ça s'est fait, cette organisation?
Alors, Anaïs a étoffé ses établissements,
oui.
S'est étendue sur des départements. Et pour l'actualisation d'Anaïs, cette association est devenue reconnue d'utilité publique en 2007. Et pour parler actuellement, aujourd'hui, nous avons un président de l'association qui s'appelle Monsieur Alain Le Dauphin depuis 2011.
Oui. Et il siège aussi à Alençon ou...
C'est un bénévole
oui.
qui siège à Alençon,
oui.
mais qui garde un statut de bénévole en totalité.
Mais il n'y a pas que des bénévoles dans votre association.
Alors, nous avons un président directeur général, un directeur général qui a pris ses fonctions en 2015, qui était déjà dans l'association au préalable.
Il y était avant comme bénévole?
Comme directeur général adjoint.
Adjoint, oui.
Et l'arrivée de M. Pascal Bruel, directeur actuel général, a innové et mis en place une nouvelle gouvernance dont nous bénéficions actuellement.
De nombreux bénévoles, on sait le chiffre des bénévoles qui travaillent dans cette association?
Alors, nous avons des adhérents à l'association qui sont répartis en membres de l'association, d'autres qui s'impliquent et qui s'investissent toujours à titre de bénévoles dans le conseil d'administration,
oui.
et certains en nombre plus restreint dans le bureau dont je fais partie.
Et vous êtes donc chargé de la communication. Ça veut dire que le bureau comporte, donc j'ai bien compris, un directeur, vous,
Moi, je ne fais pas du tout partie du bureau ni du conseil d'administration. J'œuvre au sein du siège social de l'association qui est au sein de, à Alençon.
Oui.
Le siège social est composé de 40 personnes, de professionnels qui viennent en fonction support de nos 88 établissements.
Oui.
On est là pour aider les établissements à fonctionner.
Oui.
Et ma fonction à moi, c'est d'apporter un minimum de communication et d'information à tous ces services et aux professionnels qui œuvrent au sein des établissements.
Alors, vous dites 88 établissements, ouais. ça veut dire que la France entière est couverte ?
Pas du tout.
Non,
nous manque encore le Sud.
Non, mais ça va venir.
Il nous manque le Sud et la Bretagne, mais non. Historiquement, l'association est née dans l'Orne, donc on a une forte concentration d'établissements dans l'Orne. On
va dire alors, environ... Dans l'Orne, citer peut-être les endroits
On a des établissements et services d'aide par le travail à Alençon, à C, la Chapelle-Pressée, bien sûr, avec notre IME. Et on va jusque dans le bocage de Domfront. Ensuite, nous sommes aussi bien implantés dans la Sarthe, qui est le département limitrophe, où nous avons énormément de structures d'habitat pour les personnes handicapées.
C'est-à-dire que les personnes handicapées, elles vont pouvoir, grâce à vous, travailler et être logées. Est-ce que j'ai bien compris ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne les personnes handicapées et dépendantes tout au long de leur vie. Donc on essaye d'offrir une réponse adaptée à la problématique de leurs âges et de leurs capacités.
Oui.
Donc, des enfants peuvent intégrer des IME.
Alors, j'aimerais bien que vous ne me parliez pas en sigle
jargon,
parce
bien
que
sûr.
On ne comprend pas.
Donc, on va aider la personne de sa naissance.
Alors, IME.
Institut médico-éducatif.
Voilà.
Donc, c'est là où on allie l'éducation avec l'habitat, avec le loisir.
Oui.
On englobe vraiment tous les secteurs de l'enfance. Ensuite,
oui.
Pour les personnes qui sont capables de travailler...
Oui.
Parce qu'on peut être une personne handicapée mentale, mais avoir quand même des capacités professionnelles.
Oui.
Donc on leur offre des structures de travail, que sont les ESAT, donc établissements et services d'aide par le travail. D'autres structures que sont les EA, donc les entreprises adaptées. Donc pour les personnes qui ont des capacités, plus de capacités, mais qui ont besoin d'avoir un accompagnement au retour à l'emploi.
Oui.
Et les sections annexes des ESAT.
Ça veut dire qu'elles pourront après se réinsérer.
L'idée, c'est de toujours
retrouver le monde du
être le plus autonome possible. L'idée, c'est vraiment le milieu ordinaire, comme on dit entre guillemets.
Bien sûr.
C'est de réintégrer une inclusion totale dans la société.
Oui.
Donc pour ces personnes-là qui sont en structure de travail, on leur offre aussi des structures d'habitat, donc des foyers d'hébergement.
Oui.
Donc là où elles vivent en autonomie, juste encadrées par quelques éducateurs,
mmh.
et des services d'accompagnement à la vie sociale, donc les SAVS, où là on les aide dans tous les actes de la vie quotidienne, que sont les rendez-vous médicaux, les actes, afin de maintenir une autonomie totale.
Oui, c'est ça, rechercher une pièce d'identité.
Voilà, tout ce qui est accompagnement à l'administration, enfin, au papier,
oui,
enfin,
oui,
entre
oui.
guillemets.
Alors je sais qu'en Eure-et-Loire, vous avez aussi beaucoup de centres,
oui.
Alors, et en particulier, je sais qu'il y en a un à Nogent-le-Rotrou. Alors, peut-être j'aimerais bien qu'à Nogent-le-Rotrou, vous nous disiez ce qu'on peut faire pour donner cet exemple vivant à nos auditeurs.
En effet, à Nogent-le-Rotrou, nous disposons d'un ESAT.
Alors, pas de sigle.
D'un établissement d'aide par le travail,
oui.
spécialisé d'aide par le travail, qui dispose de 54 places. Et de 8 places...
En section annexe des aides.
Alors, 54 places, c'est pour des adultes, des enfants. Expliquez-nous bien.
Adultes.
Des adultes.
Des adultes.
Donc, des adultes qui vont, eux, travailler, si j'ai bien compris.
Alors, effectivement, les ESAT fonctionnent soit en sous-traitance avec certains établissements de la ville,
oui.
ou ailleurs,
mmh. hein,
sur un site unique propre à Anaïs...
Alors, à Nogent-le-Rotrou, on peut donner l'adresse.
Tout à fait, qui est Bois de l'Aumône, après le nouvel hôpital Avenue de l'Europe. Disposons d'un site pour les ESAT. Certains employés de les ESAT logent dans le foyer d'hébergement de Nogent-le-Rotrou, qui se situe Avenue Foch, dans l'ancienne clinique que tout le monde connaît.
Alors là, ce sont des employés qui travaillent qui...
Ce sont des personnes accueillies qui travaillent à l'ESAT et qui logent au foyer d'hébergement, qu'on appelle des FH.
Et ils y vont comment? Parce que c'est à l'autre bout de Nogent. C'est vraiment les deux extrémités.
Alors, le Nobus, les transports en commun mis à disposition par la ville.
Oui. Certains sont autonomes. Hein.
Mais certains sont totalement autonomes.
Ah oui, ben ça c'est très bien de le dire. Donc, ils sont autonomes parce qu'ils ont réussi à franchir certaines barrières, c'est ça?
Leurs facultés, ils peuvent faire en sorte qu'ils aient un permis de conduire. Il n'y a vraiment aucun...
Très bien. Et alors, quand ils sont logés, ça veut dire qu'ils ont une chambre? Comment ça se passe?
Au foyer d'hébergement?
Oui.
Ce sont essentiellement des studios de minimum 20 mètres carrés.
Oui.
Donc, ils vivent vraiment en autonomie. Ils ont par contre à disposition un self, mais ils peuvent cuisiner aussi chez eux.
Ah oui.
Nous avons même des chambres doubles.
Et oui, c'est ça, exactement, c'était ma question.
Enfin, des studios pour
deux
personnes.
Donc, il y a des couples. Voilà. Oui. Alors, vous pouvez prendre un cas concret pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est un jeune ménage ou c'est un...
Alors, en fait, l'association Anaïs s'est toujours souciée de prendre en compte la globalité de la personne.
Oui.
Une personne n'est pas, peut être handicapée, mais elle a des sentiments, elle peut avoir une vie amoureuse.
Oui.
Et c'est souvent, ça arrive souvent, c'est souvent le cas. Donc, dans nos offres de prestations en termes d'habitat, on essaye de prendre en compte ces demandes.
Bien sûr.
On a rénové effectivement le nouveau centre d'habitat de Nogent dans l'ancien hôpital. Et on a essayé de recenser les personnes qui étaient susceptibles de vivre ensemble.
Oui.
Donc, je n'ai pas de cas concret. Hein. Je ne suis pas dans l'intimité des personnes.
Vous expliquez bien que c'est possible d'avoir une vie normale, en couple, en travaillant.
En travaillant et en étant accompagnée par l'association Anaïs.
Et alors, pour le travail, est-ce que c'est vous-même qui cherchez le travail ou bien comment ça se passe pour qu'ils trouvent du travail?
Pour qu'ils trouvent du travail. En fait, pour intégrer un établissement et service d'aide par le travail, la personne handicapée doit avoir une notification de la maison départementale des personnes handicapées qui l'oriente vers un établissement et service d'aide par le travail. Donc, on a un petit papier qui nous dit, bon, bah, vous, selon vos facultés, vous allez pouvoir venir travailler à l'établissement de Nogent-le-Rotrou.
Ah oui.
Donc, c'est comme ça qu'on intègre un établissement par le travail, d'aide par le travail. C'est avec ce petit papier.
Donc, si ça se trouve, il y a des gens qui viennent de l'Orne et qui vont arriver à Nogent-le-Rotrou parce que le métier qu'elles ont va coïncider.
Le recrutement en général de ces structures-là se fait départementalement. Enfin,
départementalement.
Voilà. Oui, en général.
Donc c'est bien aussi parce qu'ils ne vont pas quitter leur famille vraiment, puisque ce sera le même département.
On essaye de faire en sorte que les gens, selon leur projet de vie, peut-être que leur projet de vie, c'est de ne pas habiter...
Voilà,
tout à fait.
Donc vous-même, vous faites très attention à tout cela.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment très bien parce qu'il y a une humanité, on sent à travers vos propos, que les gens qui passent dans ces lieux vont pouvoir assumer une vie de travail, une vie de loisirs. Et quels sont les loisirs, puisque vous y avez fait allusion?
Pour revenir sur l'humanité, ce sont des facteurs clés de l'association Anaïs, qui est très attachée à l'éthique, l'accompagnement global.
La bien-traitance.
La bien-traitance, le respect de la personne. C'est vraiment
les valeurs fondamentales.
Le socle, je cherchais.
Bon, ça, c'est intéressant pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien. Peut-être qu'à Nogent, ils ont entendu parler de cette association, mais ne sachant pas exactement à quoi ça correspondait. Et donc, on a la chance à Nogent d'avoir cet établissement qui a combien de personnes qui y sont?
À l'établissement et services d'aide par le travail, on a 54 personnes accompagnées.
Oui.
Au centre d'habitat, 49 personnes hébergées.
Oui.
Et le service d'accompagnement à la vie sociale accompagne 20 personnes.
Très bien. Donc, voilà. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
suis toujours avec Christiane Bouvier, vice-présidente de l'association Anaïs, et Lucie Luçon, qui s'occupe de la communication dans cette association. Et nous venons de voir que cette association était extrêmement importante, puisqu'il y a 4000 personnes accompagnées, 2000 professionnels, en fait aussi 88 établissements et services, tout cela sur 13 départements. Et dans la première partie, nous avons vu que ces départements allaient encore être en augmentation dans l'avenir. Alors, j'aimerais bien peut-être qu'à partir de là, Lucie Luçon, vous nous disiez comment peut se passer un itinéraire, si je puis dire, pour un enfant qui a des problèmes de handicap.
Concrètement, en fait, on peut véritablement passer sa vie accompagné par l'association Anaïs. J'ai un exemple assez concret en tête.
Oui.
Une petite fille qui était atteinte de trisomie et qui a été accompagnée par l'IME Gaudegrand à La Chapelle Pressée.
À l'institut. De quel âge ?
Oh, c'est à partir de 6 ans, la prise en charge.
6 ans.
Et qui aujourd'hui vit en foyer de vie. Donc en foyer.
Alors
de
quel
vie.
A été l'itinéraire avant ?
Son itinéraire a été assez simple pour elle. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que quelqu'un qui arrive en IME, en institut médico-éducatif, qui peut suivre une scolarité, peut ensuite aller travailler dans un ESAT, dans un établissement et service d'aide par le travail Anaïs, être hébergé par l'association Anaïs, être suivi socialement par l'association Anaïs. Ensuite arrive l'avancée en âge, donc les personnes sont fatiguées. À partir de ce moment-là, elles peuvent intégrer un foyer de vie ou alors une maison de retraite, enfin une EHPAD, parce que nous avons aussi des EHPAD.
Voilà.
Donc ça, c'est un parcours de vie typique qui peut se produire au sein de l'association.
Et cette femme, vous lui avez parlé ?
Je l'ai vue en photo dans les archives de l'association lorsque nous avons préparé les 60 ans de l'association en 2014. Oui. Et donc, en visitant certains établissements, je l'ai reconnue tout de suite et j'étais assez bouleversée de la voir encore au sein de nos établissements.
Donc, les parents qui ont un enfant en difficulté, ils peuvent aller vous rejoindre, c'est cela ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre mail pour qu'on puisse savoir comment se référer à Anaïs ?
Alors, si vous voulez voir l'amplitude de nos établissements et de nos activités,
oui.
Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association, qui est www.anais.asso.fr.
Vous allez trop vite.
Je vais trop vite.
Recommencez doucement.
Donc, www.anais.
Alors, A, N. Majuscule ou pas ?
Non, tout en minuscule. Oui. Centrema, son
A, N,
A, I, S.
Oui.
Point asso, ASSO.fr.
Très bien. Donc, ça, c'est un point important. Alors, Christiane Bouvier, je crois que vous vouliez poursuivre, justement.
Oui, pour aborder les profils de ces personnes qui sont accompagnées.
Oui.
C'est très riche en diversité.
Oui, alors, on a parlé de trisomie.
Tout à fait. Donc,
oui.
Déficience intellectuelle.
Bien sûr.
Qui peut être...
Alors, déficience intellectuelle, ça peut être trisomie, mais ça peut être...
Sous toutes ses formes.
Sous toutes ses formes.
C'est ça. Avec des degrés divers, plus ou moins importants, mais... Il y a aussi l'autisme qui prend de plus en plus d'importance et de place dans nos établissements et dans l'association.
Oui.
Ainsi que les troubles envahissants du développement, ce que l'on appelle dans nos sigles, hélas trop nombreux dans le milieu médico-social, les TED. Donc ça couvre tout trouble envahissant du développement sous toutes ses formes.
Exemple.
Un exemple, agressivité...
Comportement
anormal, absence de maîtrise caractérielle.
Donc ça, ce sont les troubles envahissants du développement.
Exactement. Ensuite, il y a l'handicap psychique, qui est maintenant connu et reconnu et qui rentre dans la diversité des
accompagnements Anaïs.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, qui a déstabilisé à un certain moment le fonctionnement de certains de nos établissements, car nous n'étions pas préparés dans les établissements à recevoir ce genre de personnes accompagnées.
Oui, parce que vous avez forcément beaucoup de pédiatres, de psychiatres.
Beaucoup.
Et vous pouvez nous donner des... Non, c'est trop compliqué, mais vous êtes très nombreux sur les sites.
Effectivement, il y a un accompagnement pédopsychiatre, psychiatre, psychologue, mais dans des quotas et dans des...
Dans des taux d'encadrement plus que raisonnables.
Plus que raisonnables.
Mmh. Ah oui.
Comme autre profil de personnes accompagnées, il y a les troubles de la conduite et du comportement, là aussi dans nos sigles perpétuels que l'on appelle les TCC. Non. Mmh. Donc ça peut être l'épilepsie, ça peut être...
Chez les jeunes, on les oriente en général vers des instituts thérapeutiques et d'éducation pédagogique. Donc c'est là où ils vont suivre une scolarité et être accompagnés pour essayer de pallier à ces troubles du comportement en fait.
Oui, c'est ça. Mmh. On leur donne des médicaments aussi.
Selon les besoins.
Selon les besoins, oui.
Alors, il y a aussi l'infirmité moteur cérébrale, les IMC, qui maintenant sont connus et reconnus et rentrent dans la globalité de ces handicaps.
Oui, parce que vous faites bien de le souligner. Avant, toutes ces maladies n'étaient pas reconnues et donc c'était difficile d'être soigné, c'est ça?
C'était souvent des gens non identifiés, des personnes non identifiées et livrées à elles-mêmes ou dans l'excès qui d'emblée étaient dans une structure psychiatrique
ouais.
Avec une mauvaise ou une non-identification des problèmes.
Oui, c'est ça. On ne savait pas les soigner. D'ailleurs, l'autisme en est bien un exemple.
Tout à fait.
Parce que maintenant, ça se soigne. Les enfants peuvent arriver à avoir une scolarité normale après. Donc ça, il y a eu, je crois, de grands progrès. Et certainement que les établissements dont vous parlez en sont la preuve.
L'association s'est emparée de la question bien avant que les politiques publiques s'en emparent.
Et le personnel a eu des formations spécifiques pour accompagnement des personnes autistes.
Oui, parce qu'il fallait des infirmières qui puissent, tout un personnel, j'imagine,
spécialisé. Bien sûr, rentre dans les profils le handicap physique, le handicap sensoriel et la dépendance et la perte d'autonomie. Là aussi, il y a eu de grandes avancées par rapport aux profils et aux symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Alors, il y en a plus, d'ailleurs, de maladies d'Alzheimer, ou est-ce que c'est parce qu'on les traite
Elles sont mieux identifiées.
Elles sont mieux identifiées.
Dans la mesure où l'identification s'est améliorée, les profils se dessinent et le nombre paraît plus important.
Oui. Donc, vraiment, c'est une association très importante. Alors, nous avions dit qu'à Nogent-le-Rotrou, il y avait un établissement. Est-ce que près de Nogent-le-Rotrou, il y a d'autres établissements
Effectivement, l'établissement de les aides de Nogent-le-Rotrou et le foyer d'hébergement est regroupé dans un pôle, le pôle Nogent-le-Rotrou Rémalard. Et il y a aussi un ESAT à Rémalard.
Alors, ESAT
Un établissement spécialisé d'aide par le travail. En fait, pour être plus concret, c'était l'appellation antérieure des CAT, des centres d'aide par le travail.
Ah, voilà.
Voilà. On ne parle plus de CAT et maintenant l'appellation, c'est ESAT, oui. Établissement spécialisé d'aide par le travail.
Très bien.
Celui de Rémalard dispose de 53 places et c'est géré par une direction commune qu'on
appelle un peu une direction en plateforme, un directeur par plateforme géographique et d'accompagnement.
Maintenant, c'est un seul...
On a une direction pour les ESAT de Rémalard et de
Unique,
de Nogent, du SAVS, donc du service d'accompagnement à la vie sociale, et du centre d'habitat de Nogent.
Très bien.
Ce qui n'est pas le cas sur les 88 établissements de l'association. Certains établissements ont une direction unique par un pôle et d'autres gardent une direction propre à chaque
Alors,
établissement.
Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est que vous nous donniez les établissements de l'Eure-et-Loire parce que nous sommes en Eure-et-Loire. Vous pouvez peut-être expliquer ce...
Alors, oui. Nous avons évoqué Nogent-le-Rotrou avec son ESAT à Nogent, son centre d'habitat et son SAVS.
Service d'accompagnement à la vie sociale.
Et alors, et un SAESAT, c'est quoi?
Une section annexe d'ESAT, donc une section annexe d'établissement et services d'aide par le travail.
Très bien.
Ces sections annexes sont en général proposées pour des travailleurs handicapés qui sont, entre guillemets, vieillissants et qui ont besoin que l'on diminue l'allure de travail.
Ah,
qu'on soit
oui.
plus en...
Oui, c'est ça. Ils peuvent travailler, mais pas trop, quoi.
Bah, on adapte le poste de travail
à un rythme différent.
À un rythme, voilà. Le rythme est...
Très bien. Alors, nous en étions à Nogent-le-Rotrou, à Chartres...
Alors, Rémalard, on l'a aussi évoqué avec son ESAT de 53 places. À Chartres, il existe un ESAT de 64 places, un foyer d'hébergement de 17 places et un SAVS de 30 personnes. Oui. Service d'accompagnement à la vie sociale.
Oui.
Gazeville-Oisem, qui est en périphérie de Chartres, il existe un établissement, une masse.
Alors, c'est une maison d'accueil spécialisée. Alors, celle-ci, elle est spécialement dédiée aux personnes qui présentent un trouble envahissant du développement.
Ça veut dire ?
Alors, les troubles envahissants du développement, c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des difficultés... ce sont des troubles du développement qui apparaissent en général à l'enfance et qui se manifestent par des troubles de la communication, du comportement, un manque d'intérêt, etc. D'accord. Donc des personnes qui sont un peu plus... dont la prise en charge est vraiment spécifique.
Oui, c'est ça.
J'en parle d'autant mieux que dans l'association Anaïs, il y a une structure qu'on appelle les CVS. Et il y a des représentants des usagers qui siègent dans ces CVS. Et en tant que représentante de l'association, je siège au CVS de la masse de Gavézine.
Donc CVS, conseil à la vie sociale.
Voilà.
Donc, voilà.
Alors je sais qu'il y a aussi à Dreux, il y a une... formation à Dreux et puis à Vernouillet.
Alors Dreux, il s'agit d'un foyer d'hébergement et à Vernouillet, un ESAT et un foyer de vie.
Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous disiez ce qui va, vos projets, parce que ça c'est très important. Alors je vous demande de nous en parler.
Alors le nouveau projet associatif de l'association qui couvre la période 2016-2020 et qui a été unanimement voté à l'Assemblée générale du 24 juin 2016, axe vraiment son travail sur la personne accompagnée.
Oui.
Donc notre axe fort pour ces 5 prochaines années, et d'ailleurs ça a toujours été notre axe fort,
oui, j'ai bien compris,
mais là
oui.
on le marque, on l'écrit et on va évaluer nos actions par rapport à ça, c'est d'affirmer la primauté de la personne dans toutes ses dimensions et dans tout son parcours de vie.
Oui.
Donc là, le travail des bénévoles est essentiel.
Rappelons le chiffre des bénévoles.
Il s'agit du nombre d'adhérents. Hein, nous sommes entre 100 et 120 adhérents, dont certains sont membres de base, d'autres sont impliqués dans le conseil d'administration et d'autres au sein du bureau.
Est-ce que nos auditeurs peuvent faire quelque chose pour cette association ?
Alors bien évidemment, nous sommes ouverts et nous sommes prêts à accueillir toute personne désirant s'investir dans l'association pour étoffer ce plan associatif qui est plein de richesses, plein de projets et intense.
Oui. Alors, écoutez, redites-nous quand même votre mail pour que nos auditeurs puissent vous contacter.
Si vous souhaitez nous contacter, c'est assez simple. Vous pouvez nous écrire à contact, contact, anais.asso.fr.
Eh bien, un grand merci, Christiane Bouvier. Un grand merci, Lucie Luçon, et j'espère que nos auditeurs auront à cœur de vous retrouver sur votre site internet. Quant à nous, Radio Grand Ciel, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site www.radiograndciel.fr. Merci à vous deux.
Merci. Thank you.